Et vous, qui dites-vous que je suis ? Jésus pose une question d'identité. Et cette question nous oblige à nous placer devant lui, à nous rapprocher de lui. Qui est-il, cet homme, pour moi, pour toi, pour nous ? Il n'y a rien de plus difficile que de définir un être humain. Que dire de quelqu'un ? Et il m'est venu en tête la liste des personnes qui est écrite dans le journal que je reçois une fois par an pour faire honneur aux personnes qui sont sans domicile et qui meurent dans la rue. Alors des fois, il y a écrit leur nom, parfois leur prénom quand on les connaît, leur âge, et puis parfois on ne sait rien d'eux, alors on écrit juste un homme, une femme, et malheureusement de temps en temps un enfant. Dans notre vie sociale, on définit quelqu'un par son métier, son origine géographique, ethnique, familiale. Quand on ne connaît pas quelqu'un et, par exemple, qu'on doit travailler avec lui, eh bien, ses paroles, ses actes nous permettent de le définir un peu plus, de discerner un petit peu qui elle est. Et si, en effet, ce qu'elle dit est en cohérence avec ce qu'elle fait, eh bien, on sait qu'on va pouvoir avoir confiance en elle. Comment parle-t-on de Jésus dans notre monde d'aujourd'hui ? D'ailleurs, je vous mets au défi de poser la question dans vos cercles de connaissances. Ce serait intéressant, et puis vous reviendrez vers moi et vous me direz quelque chose, et comme ça je pourrai refaire une prédication sur le sujet. En tout cas, ce que j'entends, moi, c'est qu'il est souvent considéré comme quelqu'un d'exceptionnel. On parle de lui comme d'un sage, parfois d'un philosophe, ou d'un prophète, finalement, comme autrefois, tu es un prophète. Et en tout cas, la personne de Jésus laisse rarement indifférent. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Cette question est posée à ceux qui sont dans le cercle proche de Jésus, c'est-à-dire ses disciples, ses amis. Elle nous est posée à nous aujourd'hui qui sommes rassemblés autour de son nom, en son nom. Et on pourrait répondre avant toute chose, ben, c'est un homme. Ah, il y a un nounours qui fait du bruit là. J'avais pas prévu ça. Et puis on peut pas l'arrêter en plus. C'est Jingle Bell, c'est ça? Donc que répondre à la question de Jésus? Eh bien, c'est un homme, lui, Jésus, il pose une première question. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il dit, au dire des hommes, qui est le fils de l'homme ? Alors là, on est trompé par le français. Et là, je mets vraiment mon effort à vous expliquer que le grec parle d'un mot qui est anthropos. Ça a donné anthropologue, anthropologie, celui qui s'intéresse aux humains et pas à l'homme masculin. C'est toujours mieux en le disant. Donc Jésus, il s'est nommé tout son ministère fils de l'homme, c'est-à-dire fils de l'humain, appartenant à l'humanité. Il ne s'est jamais nommé lui-même fils de Dieu. Il est le fils de l'humanité, fils de l'humain. Il est un homme dont l'existence a été avérée historiquement et qui a marqué son temps. Alors, comme tout être humain, il y a en tout cas une chose dont on est absolument certain pour tout, nous tous quand on vient au monde, c'est d'être mortel. Et lui aussi est mortel, a été mortel. Mais cette mortalité ne va pas du tout avec la vision que Pierre et les amis et les disciples ont de cet homme extraordinaire. Jésus, en effet, leur a montré que ses paroles étaient bien plus que des mots. Il leur a fait vivre une parole libératrice par les guérisons, par le pardon des péchés, par la manière dont il entre en communication avec tous ceux qu'il rencontre, la manière dont il les aime. Et puis il leur a apporté une espérance qui dépasse toute raison. Alors quand Jésus annonce ce qui va lui arriver, vous avez entendu, Pierre ne retient qu'une chose, c'est qu'il va être mis à mort. Et mourir, c'est la fin de tout. Pour les disciples, la mort de Jésus, c'est non seulement la fin de sa vie, mais de tout ce projet de vie incroyable, d'espérance et d'amour qu'il a apporté, Pierre évidemment ne peut pas l'accepter. Et Jésus entre en confrontation avec Pierre. Lui accepte l'inacceptable, parce qu'il sait que la façon de voir de Dieu n'est pas compréhensible pour les humains. Dieu voit bien plus haut, voit bien plus large, voit bien plus loin, et voit dans une autre dimension qui n'est pas simplement notre dimension humaine et terrestre. Jésus ne désire pas souffrir, et il faut bien le redire. Mais la souffrance et la mort font partie de son humanité qu'il doit assumer jusqu'au bout. Jésus accepte non pas par ses propres forces, mais parce qu'il a mis toute sa vie dans les mains de Dieu. Il a vécu devant Dieu, pour lui, par lui, et par lui, il va ressusciter. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Certaines personnes m'ont déjà dit « Je n'ai pas demandé qu'un homme meure pour moi ». C'est vrai, mais cet événement a eu lieu et il s'impose à nous, il se pose là. Alors, si je vous posais la question, peut-être que nous pourrions essayer ensemble de répondre à cette question. Peut-être que chacun, chacune d'entre nous, nous chercherions la bonne réponse, peut-être celle de notre catéchisme. Nous pourrions dire peut-être, il est le Seigneur, il est le Sauveur, le Messie, comme Pierre, porte-parole des autres disciples, qui affirme, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre sait dire que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes, attendu par le peuple, et que ce Messie est Fils de Dieu, comme nous l'avons entendu dans le psaume. Il s'agit du même Dieu, du Dieu de la première alliance, un Dieu vivant. Alors c'est une très belle déclaration de foi que celle de Pierre, et Jésus reconnaît que ce n'est pas une inspiration humaine mais divine qui lui a fait dire. Et grâce à cette capacité à être ouvert à l'Esprit Saint, eh bien Jésus donne un rôle de fondateur à Pierre, fondateur de l'Église. Alors, en bonne protestante, je vais quand même dire quelques petits mots sur ce sujet. On se demande quand même si ce petit passage n'a pas été ajouté après coup. D'une part, parce que Matthieu est le seul à donner autant d'importance à Pierre. Le rôle d'un fondateur dans les autres évangiles et dans Paul est donné à tous les apôtres. Et puis, il faut aussi dire une chose, c'est qu'au moment où Jésus était là, l'Église n'existait pas du tout. L'Église n'existait pas encore. Par contre, après coup, peut-être en effet qu'on a voulu, que Matthieu a voulu réaffirmer l'autorité de Pierre. Mais quand on voit la manière dont les premières communautés se sont constituées, on sent une concurrence. Quand on parle de l'Église de Jérusalem, par exemple, c'est Jacques, l'apôtre Jacques qui la dirige. Quand on parle de Rome, eh bien c'est Paul qui parle avec autorité aux gens qui sont à Rome, dans son épître aux Romains. Donc Pierre fait partie, évidemment, des piliers de l'Église, des colonnes, comme l'appelle l'apôtre Paul, mais il n'était pas le seul. En tout cas, dans cette phrase de Jésus, ce qu'on peut entendre, c'est que Jésus a besoin d'un relais humain. Lui est ressuscité, il va ressusciter, on connaît la fin de l'histoire quand même, on a de la chance, mais on ne le verra plus avec nos yeux, ce n'est plus lui qui va agir sur terre, c'est nous, c'est les humains. Et depuis 2000 ans, eh bien, il y a un relais, ce relais est indispensable. Et ce relais passe par des personnes qui sont capables d'entendre cette question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Mais Jésus n'attend pas que nous récitions notre catéchisme. Quand il dit « et vous », il attend que notre réponse vienne du cœur. Il ne nous demande pas un discours sur la doctrine de la double nature du Christ. Non, il attend qu'on se pose la question pour nous-mêmes. Il ne veut pas une réponse théorique. Alors, j'ai médité cette question toute la semaine, parce que c'est quand même pas une question qui est facile, même pour les pasteurs. Et ce qui ressort d'important pour moi, et c'est peut-être pour ça que j'ai médité longtemps et que j'aurais pu encore méditer longtemps, c'est que cette question nous force à ne pas tricher. On ne peut pas tricher avec cette question et avec Jésus-Christ. On ne peut pas tricher devant quelqu'un qui nous dévoile la vie en vérité. Jésus n'a pas triché. On nous dit dans le texte, il va parler ouvertement à ses disciples. Il n'a pas caché à ses disciples qu'il allait mourir sous prétexte de les protéger. Combien de mensonges nous faisons sous prétexte de protéger les autres ? Ça m'est arrivé aussi. Se placer devant Jésus nous incite à parler en vérité. Il y a des parties de nous que nous n'aimons pas tellement regarder en face parce que nous ne sommes pas très fiers. Et la personne de Jésus nous permet de les assumer et de comprendre ce que veut dire le salut. Le salut, c'est la libération du mal qui m'enchaîne. Cette semaine, nous avons appris le crash de l'avion qui a été fatal à l'ancien chef du groupe russe Wagner. Alors, quand j'ai entendu que ce crash avait sans doute été commandité par Vladimir Poutine et que quand même beaucoup d'éléments concordent pour le dire, je me suis dit que cet homme est en train de s'enfermer dans la spirale du mal, qui a déjà commencé depuis longtemps, mais là, c'est vraiment au vu et au su de tout le monde, et qu'il est très très difficile d'en sortir. Et puis dans les nouvelles, il y a aussi ces migrants, pour la plupart d'Afrique subsaharienne, qui ont été tués par centaines en Arabie Saoudite, simplement parce que leur existence était indésirable dans ce pays. Donc à la frontière, eh ben, c'était comme le mur de Berlin finalement. Mais ce qu'on entend au niveau international, c'est-à-dire la volonté d'éradiquer simplement par la mort les gens qui nous dérangent, on peut le vivre à tous les niveaux, aussi en France. Combien de fois ai-je entendu qu'on faisait une vie impossible à certains salariés, les poussant à la démission ? Il y a eu une période, on a entendu des suicides dans certaines entreprises. La spirale du mal est difficile à enrayer et pourtant c'est notre tâche quotidienne. Quand on trouve normal d'utiliser la manière forte pour éliminer quelqu'un ou simplement arriver à nos fins, alors il sera difficile d'en revenir. Pourquoi c'est difficile ? Parce que il faut déjà revenir vers soi-même et cela nécessite de reconnaître que faire du mal à l'autre, eh bien, ce n'est pas un chemin de vie pour soi-même. Mais changer de chemin est toujours possible à tout moment. Il faut simplement du courage. Cela nécessite d'être capable de dire à quelqu'un « Tu sais, j'ai repensé à cette situation et je me suis trompée. » Même si la demande de pardon est parfois difficile, parfois impossible, on peut soi-même changer de vie et prendre de nouvelles habitudes. Et on se rend compte, comme c'est libérateur, de reconnaître que l'on s'est trompé. Quand quelqu'un, vous savez, s'énerve et part dans les tours, comme on dit, s'il a quelqu'un en face de lui qui dit « Ben, oui, c'est ma faute. » Ah, ça stoppe en général court à toute argumentation. Et ça ne me fait pas mourir. J'ai simplement reconnu que oui, c'est mon erreur, c'est ma faute. Et je peux le faire parce que si je suis ancrée en Christ, si je suis ancrée dans celui qui est la vérité, eh bien, reconnaître cela ne m'enlève pas son amour, parce que c'est son amour qui est le plus important. Et c'est en cela qu'il me sauve et qu'il me libère. Alors la question « Qui est Jésus pour moi ?» me fait m'interroger sur qui je suis moi-même et comment je veux vivre moi, avec quelle valeur j'ai envie de vivre. Et je peux m'approprier les réponses que Jésus a données pour lui-même, à condition que je les vive vraiment dans ma vie quotidienne. Je peux répondre « Tu es la lumière du monde » à condition que je me laisse éclairer par lui, par sa lumière, dans mes choix, dans ma manière de réfléchir, dans ma manière d'agir. Je peux lui répondre « Tu es la vérité » car il me fait accéder à la vérité de ma vie. Je peux lui répondre, tu es le chemin, si en effet je prends son chemin, si j'ai envie de prendre son chemin. Et prendre son chemin, ce n'est pas être parfait, c'est justement reconnaître que je ne le suis pas et d'avoir besoin de lui sur mon chemin. Alors la question de Jésus, évidemment, n'a pas une seule réponse parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une relation différente au Christ. Et lui aussi a une relation propre à nous-mêmes. Mais l'important, eh bien, c'est que nous nous mettions en route dans notre réflexion, dans nos paroles, dans nos actes. La question de Jésus, en fait, nous permet d'avoir un interlocuteur. Et c'est peut-être la seule ou une des seules différences qu'il y a avec les gens qui me disent, je crois, mais je ne sais pas en quoi. Ils me disent, il y a quelque chose au-dessus de moi. Oui, mais ce n'est pas un interlocuteur, le quelque chose au-dessus de moi. Ce qui est beau avec Jésus, c'est que j'ai un interlocuteur. C'est le vis-à-vis que Dieu désire pour nous. Et cela nous aide à aller vers nous-mêmes, vers les autres et vers Dieu. Amen.